Dans le désert de l'Arizona, un détective doit établir un lien entre un meurtrier et la scène d'un crime. Les seuls témoins dont il dispose sont deux cosses de haricots. Un meurtre grotesque sur une plage isolée déroute les enquêteurs. Un géologue légiste espère transformer une poignée de sable en témoin de l'accusation. Après des années passées à la recherche d'une tombe cachée, la seule pièce à conviction dont la justice dispose pour inculper un tueur est la racine d'un arbre. Les zones rurales ont toujours été des endroits de prédilection pour les meurtriers qui tentaient de cacher leurs crimes. Mais le développement de la botanique et de la géologie permet aujourd'hui à la nature de nous livrer les germes de la vérité. Le désert de Sonora. Combien de vies ont été enlevées dans ces paysages désolés, avec les arbres pour seuls témoins. Aujourd'hui, ces observateurs silencieux dénoncent les coupables. Le terrain d'essai de Caterpillar, près de Phoenix, en Arizona, était la route idéale pour cet homme qui rentrait tranquillement chez lui un dimanche de mai 1992. Alors qu'il prenait un raccourci par le lit d'une rivière asséchée, il fut intrigué par quelque chose d'anormal dans ce paysage désolé. Il s'approcha pour mieux regarder. Sous les branches d'un palo verde se trouvait le corps nu d'une femme, le visage contre terre. Elle ne respirait plus. Les officiers du bureau du shérif de Maricopa arrivèrent sur les lieux. L'état du corps indiquait que la victime se trouvait là depuis 12 heures ou plus. Ses vêtements étaient éparpillés autour d'elle. Ses chevilles et ses poignets étaient ligotés avec des barbelés et des lacets de chaussures. Le meurtrier semblait avoir passé pas mal de temps avec sa victime avant de l'abandonner. C'est le détective Charlie Norton qui menait cette enquête. On identifia la victime grâce à ses empreintes digitales. Il s'agissait de Denise Johnson, 30 ans. Elle avait déjà été arrêtée pour prostitution. Pendant des heures, les équipes analysèrent la scène du crime et tentèrent de comprendre les raisons de la mort de la victime.
Elle avait un maillot de corps blanc enroulé autour du cou. Il semblait qu'elle avait été étranglée.
Alors que l'équipe examinait les vêtements déchirés à la recherche d'un indice, un son strident se fit entendre. Le silence du désert venait d'être brisé par la sonnerie d'un téléavertisseur. Un ami de Denise Johnson tentait-il de la joindre ou le téléavertisseur appartenait-il au tueur? La police obtint un ordre de la cour et contacta la compagnie du téléavertisseur. Le propriétaire fut retrouvé grâce au numéro d'identification.
L'abonné était un homme du nom de Earl Bogan. Il nous a dit qu'il n'y avait que son fils Mark qui utilisait ce téléavertisseur parce qu'il n'avait pas de téléphone et que c'était la seule façon pour sa famille d'entrer en contact avec lui.
Pendant que les policiers analysaient la scène du crime, un homme s'approcha pour leur dire qu'il avait aperçu la veille vers 1h30 du matin, un pick-up blanc équipé de lumières jaunes sur le toit quittait le terrain en trombe pour ensuite brûler un stop avant de rejoindre l'autoroute. Cette information, combinée à celle concernant le téléavertisseur, allait beaucoup aider l'enquête de Norton. Lorsque ce dernier apprit que Mark Bogan possédait un pick-up blanc équipé de telles lumières, il comprit qu'il avait sans doute trouvé son tueur. Il lui restait maintenant à le prouver. Bogan, accompagné de sa femme, Rebecca, accepta de se rendre au bureau du shérif pour y être interrogé. Lors de l'interrogatoire, reconstitué ici, Rebecca déclara que la nuit du meurtre, Mark était rentré à 2h du matin, le visage couvert de sang et d'égratignures. Il lui avait dit avoir été mêlé à une bagarre dans un bar. Bogan, de son côté, raconta une autre histoire. Il déclara qu'il avait ramassé une autostoppeuse dont la description correspondait à Denise Johnson. Il avait eu un rapport sexuel avec elle dans son pick-up. Bogan admit qu'il avait menti à sa femme pour ne pas lui déplaire. L'histoire prenait forme et semblait bien ficelée, mais Norton se demandait si Bogan n'avait pas arrangé un peu les faits pour les faire concorder avec les indices.
Je crois que quelqu'un l'a contacté et lui a dit que l'enquêteur du bureau du shérif le cherchait. Je crois qu'il s'est douté pourquoi et qu'il a pondu cette version des faits.
Toujours selon Bogan, après le rapport sexuel, il s'était disputé avec l'autostoppeuse et lui avait ordonné de sortir de son pick-up. En sortant, elle avait emporté son portefeuille et son téléavertisseur. Bogan l'avait rattrapé et avait récupéré son portefeuille. Il déclara qu'il avait laissé Johnson au bord de l'autoroute, bien en vie. Norton soupçonnait Bogan de ne lui raconter que la moitié de l'histoire.
Je crois que ce que Mark m'a raconté lors de l'interrogatoire, qu'il l'a ramassé, puis la dispute et ainsi de suite, je crois que tout ça est sans doute vrai. Mais la partie qu'il a omise, c'est l'endroit où cela s'est produit, et puis qu'il l'a finalement tué.
Norton soupçonnait Bogan d'être le meurtrier, mais il avait du mal à le cerner. Non seulement Bogan nia énergiquement avoir tué Denise Johnson, mais il ajouta qu'il n'avait pas mis les pieds sur le terrain d'essai de Caterpillar depuis des années. Ironiquement, le fait que Bogan ait admis qu'il avait bien passé la soirée avec Denise Johnson rendait encore plus difficile la tâche de prouver qu'il était bien le meurtrier.
Nous n'avons rien sur cet homme. Tout ce qu'il nous dit nous ferme toutes les portes. Il a eu un rapport sexuel avec elle. Il sait qui elle est. Tout concorde.
Même si la version de Bogan était douteuse, elle neutralisait tout l'arsenal judiciaire. L'analyse de l'ADN des fluides corporels ou des éraflures d'ongles prouverait ce que Bogan avait déjà avoué, c'est-à-dire qu'il avait eu un rapport sexuel avec Denise Johnson dans la soirée du 2 mai 1992, puis qu'il s'était battu. Le seul espoir de Norton de faire inculper Bogan serait de prouver sa présence sous les palos verdés du terrain d'essai. Le pick-up de Bogan fut saisi et fouillé, mais on ne découvrit rien qui reliait Bogan à la mort de Johnson. On ne retrouva que deux coches de haricots de palo verde à l'arrière du pick-up. Elles pouvaient provenir de n'importe où. Ce n'était pas le genre de preuve qui pouvait incriminer un tueur. Dans l'espoir de trouver un moyen d'inculper Bogan, Norton retourna au terrain d'essai. Il remarqua soudain qu'un des palos verdés portait une éraflure récente. Peut-être qu'après avoir jeté le corps de Johnson, Bogan avait accroché l'un de ses arbres avec son pick-up, ce qui aurait fait tomber ses cosses de haricots sur le plateau arrière de son véhicule. Si une analyse de l'ADN prouvait que ces cosses provenaient bien de l'arbre meurtri, Norton et ses collègues pourraient réfuter l'alibi de Bogan. Il n'y avait qu'un petit problème. Le type d'analyse auquel il pensait n'avait jamais été pratiqué. Pour arrêter son meurtrier, le détective Norton contacta Timothy Allen Jarris, professeur associé au département de génétique moléculaire de l'Université d'Arizona. Norton voulait savoir si l'ADN d'un Palo Verde était assez complexe pour se distinguer de celui d'un autre Palo Verde.
Quand j'ai été contacté par le bureau du shérif, ils m'ont dit qu'ils avaient découvert des cosses dans un pick-up et qu'ils croyaient qu'elles provenaient peut-être d'un arbre de la scène du crime. Un des arbres portait des marques. Je leur ai demandé de cueillir des cosses de tous les arbres du site sans me dire lesquels correspondaient à l'arbre en question, mais seulement de les numéroter pour en faire une étude objective.
Grâce à une technologie de pointe appelée RAPIDS qui permet d'amplifier l'ADN, Allen Jarris dressa le profil génétique des cosses. Les résultats furent étonnants. L'ADN des Palo Verde étant aussi complexe que l'ADN humain, les arbres pouvaient facilement être distingués les uns des autres. Le docteur Allen Jarris confirma que les cosses découvertes dans la camionnette de Bogan provenaient bien de l'arbre meurtri. Il compara ensuite ses résultats avec ceux des 11 autres arbres de la scène du crime.
Quand nous avons donné au bureau du shérif le numéro de l'arbre, il s'est avéré être celui qui portait les marques, celui qu'il soupçonnait depuis le début. Nous avions donc confiance en nos résultats.
Le nœud coulant se resserrait autour du cou de Mark Bogan. Il fut arrêté. Armé de la découverte de Allen Jarris, le procureur était impatient de confronter la défense avec le témoignage silencieux du Palo Verde. Mais Bogan ne se laisserait pas vaincre ainsi sans se défendre. Pour faire accuser Mark Bogan du meurtre de Denise Johnson, le procureur comptait sur l'analyse d'ADN polymorphe qui n'était pas encore approuvée légalement. L'analyse de l'ADN humain avait été admise par la Cour d'Arizona seulement quelques mois plus tôt. L'utilisation de l'ADN d'une plante pour prouver un meurtre risquait fort d'être contestée, mais toute l'affaire reposait sur cette unique preuve. L'équipe de la défense de Bogan fit appel à son propre expert, Paul Keim, de l'Université de l'Arizona du Nord, afin qu'il réfute la découverte de Allen Jarris lors d'une audience préliminaire. Si Keim parvenait à semer le doute sur la validité de la technique utilisée, Bogan avait de grandes chances de s'en sortir.
Je crois que la famille de Bogan espérait que mon expertise, mon opinion en tant qu'expert sur cette nouvelle analyse d'ADN qui avait été utilisée, serait que ce n'était pas une technique judiciaire valide et que, par conséquent, cet élément ne prouvait pas que leur fils était trouvé sur la scène du crime.
Même si Keim avait été engagé par la défense, il devait avant tout être loyal envers la science et l'utilisation responsable des analyses de laboratoire. Sa méfiance envers RAPIDS était justifiée. Depuis ses débuts, ce test était réputé fournir des résultats erronés si des standards extrêmement élevés n'étaient pas maintenus pendant l'analyse.
Pour moi, cela signifiait que nous devions avoir des standards très élevés. Et il était crucial que nous sachions exactement ce qui s'était fait et que cela avait été fait correctement.
Lorsque ce test est réalisé dans les conditions requises, il fournit aux chercheurs un outil très précieux, car il permet l'étude de l'ADN d'un organisme sans aucune information préalable sur la composition génétique de l'espèce analysée. La première étape consista à prélever l'ADN des cosses. Les graines devaient être enlevées afin que le test soit fidèle, puisque chacune d'elles était composée à la fois de l'ADN de l'arbre et du pollen qui l'avait fertilisé. Ces données auraient faussé les résultats. On utilisa de l'azote liquide pour congeler les cosses et ainsi les broyer plus facilement. Une fois purifié, l'ADN était prêt à être amplifié. Ce procédé, qui consiste à chauffer l'échantillon, fait accroître la quantité d'ADN et fournit ainsi suffisamment de matériel génétique pour être analysé. Une fois réhydraté, l'ADN de la cosse était devenu invisible à l'œil nu, mais il recelait tout de même des indications très précieuses. L'échantillon de Palo Verde était maintenant prêt à afficher son empreinte génétique. On utilise un procédé appelé électrophorèse afin de rendre l'empreinte visible. Un colorant bleu est ajouté à l'échantillon d'ADN, puis déposé dans les rainures d'une plaquette gélatineuse. On expose ensuite le tout à un champ électrique qui sépare les fragments d'ADN. Le résultat est alors exposé aux ultraviolets, puis photographié. Lorsque Keim fut engagé par la défense de Bogen, il doutait de la validité de cette expertise pour différencier les causes de Palo Verde. Mais après l'analyse des données de Helen Jarris et du processus rigoureux utilisé, il fut surpris de constater à quel point les résultats étaient probants. La découverte de son collègue était à ce point concluante que Keim ne put, sous serment, qu'approuver ses résultats. Selon lui, l'Écosse et l'arbre partageaient le même code d'ADN. La défense se retrouva en position d'infériorité à cause de l'intégrité scientifique de son analyste. Bogen était pratiquement KO.
Quand j'ai examiné les preuves scientifiques, la chose la plus évidente que j'ai observée était que l'ADN de la cosse retrouvée dans le pick-up de Bogen était exactement le même que celui d'un des arbres sous lequel le corps avait été découvert.
Le travail de Helen Jarris et de Keim confirmait la présence de Bogen sur la scène du crime. Après avoir tué Denise Johnson, Bogen avait fait marche arrière, avait embouti un arbre et ainsi fait tomber la preuve qui servirait à le faire inculper. Cette découverte scientifique irréfutable avait littéralement écrasé la défense de Bogen. Il fut reconnu coupable de meurtre et condamné à une peine de prison à perpétuité. Le travail de pionnier de Helen Jarris a permis d'établir l'importance de l'analyse de l'ADN botanique en tant que technique judiciaire. Grâce à lui, le témoignage de deux petites cosses a permis l'arrestation d'un meurtrier. À 1000 lieues du désert de l'Arizona, sur la côte atlantique de la Nouvelle-Angleterre, une plage déserte fut le théâtre d'un autre meurtre. Comme dans le cas des cosses de Palo Verde, on allait tenter de faire parler des indices peu communs. Dans ce cas-ci, quelques grains de sable. Le matin du 30 juin 1994, une femme et ses deux neveux se promenaient sur Crescent Beach dans le Rhode Island. Les enfants étaient à la recherche d'un trésor. Ils découvrirent plutôt un cadavre qui semblait avoir été enterré vivant. Le détective Arthur Clark, du service de police de East Providence, fut appelé pour enquêter sur cet homicide. La scène tenait plus d'un roman de Stephen King que de la réalité pour ce vétéran de la police. À environ un mètre de profondeur se trouvait le corps d'une femme vêtue d'une robe de soirée de satin rouge. Elle était morte des suites de coups portés à la tête.
Nous sommes arrivés sur les lieux vers 10h15 et nous avons constaté que c'était des bras humains. Le corps était enterré dans une tombe peu profonde. Nous avons donc contacté le bureau du coroner qui nous a envoyé quelqu'un.
Les bras de la victime sortaient du sable comme si ses mains tentaient désespérément de s'agripper à la vie. Mais il était peu probable qu'elle ait été enterrée vivante. Le coroner confirma que si cela avait été le cas, elle n'aurait jamais eu la force de libérer ses bras ainsi. Quelqu'un l'avait placée de cette façon, comme pour évoquer l'image d'un film d'horreur. Le tueur avait peut-être laissé sa carte de visite, mais le message y était indéchiffrable. on avait tracé un cercle dans le sable autour du corps. Au milieu se trouvait une montre brisée dont les aiguilles marquaient minuit. On aurait dit que quelqu'un avait célébré un rituel macabre. Pour les détectives, le temps pressait, car ils craignaient que d'autres meurtres identiques ne soient commis. Ils devaient agir rapidement s'ils voulaient empêcher le tueur de frapper à nouveau. À ce stade de l'enquête, des indices fort importants se trouvaient peut-être dans des rebuts. Des mégots, des emballages de bonbons et des verres de plastique furent recueillis sur la scène, ainsi que des échantillons de sable, à la fois au fond de la fosse et à la surface.
À ce moment-là, nous ne savions pas ce qui était un indice ou non. Par mesure de sécurité, nous avons pris tout ce qui pouvait devenir un indice.
Mais pour que Clark parvienne à donner un sens à ce spectacle désolant, il devrait d'abord en apprendre plus sur la victime. Il n'eut pas à chercher bien loin.
Vers 8 heures ce soir-là, un homme du nom de Christopher Hutter, qui résidait à Pawtucket au Rhode Island, a appelé la police locale pour signaler la disparition de sa femme.
Cette femme avait 30 ans et s'appelait Kendra Hutter. Grâce à une photo, Clark identifia la victime. Selon son mari, Kendra et lui ne faisaient que cohabiter. Avec une façade de couple sans histoire, ils partageaient la même maison sans s'aimer, liés par leurs obligations financières et parentales. Ils s'étaient permis d'avoir des liaisons extra-conjugales. Christopher Hutter déclara à la police que Kendra était partie à un rendez-vous amoureux la nuit où elle fut tuée. Les policiers apprirent par la suite qu'elle avait rencontré un homme grâce à une petite annonce. L'homme, de race blanche, divorcé, se décrivait comme un homme séduisant, joyeux et un bon père. Afin de mettre un peu de romance dans sa vie, elle l'avait contacté et ils s'étaient fixé rendez-vous. La nuit du 29 juin, Kendra gribouilla le nom de l'homme et son numéro de téléphone sur un papier et le donna à son mari. L'homme s'appelait Gary. Le détective Clark identifia l'homme comme étant Gary Tasson, un camionneur qui vivait avec sa mère et son frère à Cumberland. Tasson déclara à la police qu'il avait vu Kendra Hutter 3 fois, mais nia l'avoir vue la nuit du meurtre. Affichant une attitude débonnaire, il déclara à Clark qu'il savait que Kendra et son mari avaient des problèmes conjugaux. Peut-être, suggéra-t-il, la jalousie de Christopher Hutter l'avait-il poussé à tuer sa femme. Lorsque Tasson admit qu'il était déjà allé à la plage où le corps avait été découvert, Clark lui demanda de le suivre au poste de police afin de poursuivre l'interrogatoire.
Après avoir pris sa déposition, j'ai remarqué que quelque chose clochait. Il y avait des contradictions entre ses déclarations et ce que nous avions appris jusqu'alors.
Lors de l'interrogatoire reconstitué ici, Tasson commença par nier catégoriquement avoir vu Kendra Hutter la nuit du meurtre. Mais plus tard, il révisa son histoire. Il admit être sorti avec elle ce soir-là, mais déclara qu'il l'avait raccompagnée à 11 heures. Cela contredisait la version du mari de Kendra, qui disait qu'elle n'était jamais rentrée cette nuit-là. Il semblait que Tasson était la dernière personne à avoir vu la victime en vie. Les détectives poursuivirent l'interrogatoire.
Le détective Bilodeau et moi-même lui avons parlé pendant à peu près 4 heures. Il n'a jamais montré quelques signes d'émotion. Il parlait très bien. Il était articulé, poli et calme. Il n'était pas nerveux du tout. Il s'en tenait aux faits.
Clark continua à questionner Tasson. Après 5 heures d'interrogatoire, Tasson finit par craquer. Kendra et lui étaient allés construire des châteaux de sable lorsqu'un bruit l'avait effrayé, ce qui l'avait fait heurter accidentellement la tête de Kendra. Paniqué, il avait décidé d'enterrer son corps dans le sable. Mais l'analyse des blessures de Kendra révéla qu'elle avait reçu 7 coups à la tête. Clark dut rejeter sa version. Le détective était absolument certain que la victime avait été tuée intentionnellement.
Nous ne savons pas pourquoi elle a été tuée, mais ce n'était pas un accident.
En apparence, Tasson semblait commencer à coopérer. Mais ses déclarations n'avaient aucun sens et Clark ne savait plus à quoi s'en tenir. La version de l'accident n'était pas plausible, mais reflétait sans doute une version arrangée de ce qui s'était passé. De toute évidence, Tasson parsemait ses déclarations de mensonges, ce qui ne servait qu'à créer encore plus de confusion. Si seulement Clark pouvait arriver à faire la différence entre le fantasme et la vérité, il pourrait peut-être résoudre ce cas. Mais pour le moment, il ne pouvait que prendre ce que Tasson était prêt à lui donner. Le suspect, qui semblait décidé à coopérer, mena les policiers jusqu'au fossé d'une route où il déclara avoir jeté la pelle. Bien que Tasson semblait encore vouloir gagner du temps, on découvrit effectivement une pelle. Cette découverte s'ajoutait aux nombreux autres éléments dont Clark semblait disposer. Il y avait la victime, enterrée de façon rituelle, la présumée arme du crime et le suspect qui reliait les deux. Mais l'histoire contradictoire de Tasson ne suffirait pas à l'inculper. Pour que les charges soient retenues, Clark devrait bâtir une version des faits plus solide. Muni d'un mandat de perquisition, la police fouilla la voiture de Tasson. On n'y trouva rien d'autre que quelques grains de sable. Clark semblait avoir épuisé ses ressources. Il ne lui restait plus qu'à le faire comparaître en cour. Malheureusement, au début du procès criminel en janvier 1997, Tasson commença à revenir sur sa position et déclara qu'on lui avait promis l'immunité en échange de ses aveux. Il déclara que le sable du coffre arrière de sa voiture provenait d'une soirée à la plage qu'il avait passée avec une autre femme. La pelle, poursuivit-il, n'était qu'une simple pelle. La police ne pouvait pas prouver le contraire. La chance venait de tourner en faveur de Gary Tasson. La rétractation de Gary Tasson forçait le détective Clark et la police du Rhode Island à traiter l'affaire sans tenir compte de ses aveux. Mais pour relier Tasson à la scène du crime, Clark devrait trouver des preuves tangibles et la seule chose dont il disposait était cette poignée de sable. Clark a été convaincu que ce sable recelait la réponse, mais il ignorait comment l'en extraire. Bâtir une inculpation à l'aide d'une preuve aussi inhabituelle était au-dessus des moyens de ce petit service de police. Il appela donc des experts à la rescousse. Il envoya les indices au département de géologie du laboratoire judiciaire du FBI, le seul du genre aux États-Unis. Le géologue Bruce Hall examina la pelle, la couverture, les détritus recueillis sur la scène du crime et le sable découvert dans la voiture de Tasson.
La police de East Providence nous a demandé de comparer le sable découvert dans ces items à des échantillons témoins de sable qu'ils avaient prélevés sur la scène du crime. Dans ce cas-ci, il s'agissait d'une plage.
La mission de Hall, lire le passé dans un grain de sable. Chaque grain est un monde en lui-même, différent non seulement d'un continent à l'autre, mais aussi d'un bout à l'autre du même plage. Tous les enfants savent que le sable qui se trouve en surface est différent de celui qui est en profondeur. Mais peu de criminels réalisent que ces différences peuvent être comparées et mesurées.
Nous avons des échantillons de la fosse. Comme c'est une fosse, il y a trois dimensions. Nous avons effectué des prélèvements à différents endroits. Maintenant, nous avons un profil, si vous voulez. Nous avons un trou dans la terre qui fait peut-être de 50 cm à 1 mètre et nous avons des échantillons prélevés à différents niveaux.
Si le sable découvert dans la voiture du suspect provenait du fond de la fosse plutôt que de la surface, comme Tasson le déclarait, Hall le saurait bien vite. Pour piéger Tasson, Hall se concentra sur les échantillons de sable provenant du fond de la tombe de la victime. Si le sable découvert sur les effets de Tasson correspondait à celui de l'échantillon, Clark aurait gagné. L'analyse géologique se fit en trois temps. Les échantillons furent d'abord comparés selon leur couleur, puis leur texture et leur composition. L'analyse débuta par un examen visuel de la couleur. Ce test ne nécessite pas d'équipement coûteux, mais il était cependant essentiel pour déterminer quels échantillons ne se rapportaient pas du tout au cas de Tasson.
Nous les observons sous différents éclairages, lumière du jour, lumière fluorescente, incandescente, puis nous comparons les couleurs. Ce sable est le sable découvert sur la pelle. Il ne correspond pas à celui de la plage. C'est la même chose pour la couverture. On peut voir très facilement la différence de couleur. Ce sable n'est pas de la même origine que le sable de l'échantillon témoin. Mais si on le compare au sable de la voiture, il est d'une couleur identique.
La comparaison de couleurs des différents échantillons suggérait que la pelle n'avait pas été impliquée dans l'affaire. Peut-être Tasson l'avait-il utilisé ailleurs avant de l'abandonner. On aurait dit que Tasson prenait plaisir à mettre les détectives sur de fausses pistes. Il avait peut-être gagné cette bataille, mais certainement pas la guerre. La couleur du sable de sa voiture correspondait à la couleur du sable prélevé au fond de la fosse. Hall passa à l'étape numéro 2 de son analyse, l'examen de la texture. Le sable fut rincé à l'eau, puis exposé à des ondes ultrasoniques pour en enlever toute vase, argile ou autre matière. L'échantillon fut ensuite placé sous le microscope stéréo. Hall était maintenant prêt à examiner la taille et la texture des grains. Un échantillon de qualité est composé de grains de même taille, comme du sel de table, alors qu'un échantillon de mauvaise qualité est composé de grains de taille différente, comme un assortiment de noix, par exemple. Hall examina aussi la forme des grains. Était-il rond, anguleux ou ovale? L'échantillon de sable de la voiture de Tasson était un échantillon de qualité au grain arrondi. Il correspondait au grain prélevé au fond de la fosse. L'étau se refermait enfin sur Tasson, mais il restait encore à Hall une analyse à effectuer. Il examina les échantillons de sable sous un microscope à lumière polarisée afin de déterminer leur composition minérale. Tout minéral possède ses propres qualités optiques lorsqu'il est exposé à une lumière polarisée. Ces caractéristiques permirent à Hall de les identifier.
L'identification d'un minéral est identique à celle d'un individu. Quelle taille a-t-il? Quel poids fait-il? Quelle est la couleur de ses cheveux, de ses yeux? On caractérise un minéral de la même façon.
L'échantillon du coffre de Tasson était composé principalement de quartz et d'un peu de feldspath. Lorsqu'il compara l'échantillon à celui du fond de la tombe de Kendra Hunter, il constata que leur composition était identique. Bruce Hall venait de faire la preuve que Gary Tasson avait bel et bien été à la plage avec Kendra Hunter la nuit où elle avait été assassinée et qu'il l'y avait enterré. Le jury se basa principalement sur cette preuve pour déclarer Gary Tasson coupable de meurtre au premier degré. Il fut condamné à perpétuité sans aucun espoir de libération conditionnelle. Cet homme étrange avait attiré une femme grâce à une petite annonce, lui avait asséné une dizaine de coups de pelle, puis l'avait enterré de façon à ce qu'elle soit bien visible. Personne n'a encore compris le motif et le sens de son crime. On ne sait pas non plus s'il s'agissait du premier meurtre de Gary Tasson. Son métier de camionneur lui permettait de mettre des annonces dans d'autres journaux et d'attirer d'autres femmes, telles que Kendra Hunter, pour les tuer. Il est à souhaiter qu'elle était sa première et sa dernière victime. Les pierres tombales s'effritent peut-être avec le temps, mais la nature n'oublie pas si vite la mort. De même que les familles des victimes, la nature, elle aussi, est marquée à jamais.
«
Cher Elder, 20 ans, de Lakewood, en banlieue de Denver, au Colorado, était connue pour son tempérament. Elle n'avait que des relations houleuses. Le soir du 27 mars 1993, elle se disputa avec son amoureux Byron Powers. Sans doute qu'après quelques heures d'accalmie, ils se réconcilieraient. Afin de se changer un peu les idées, Cher partit vers Central City, petite ville de jeu sordide à une heure de voiture dans les montagnes rocheuses, où elle rencontra quelqu'un. L'homme plus âgé qu'elle était d'excellente compagnie et il lui transmettait sa bonne humeur au fur et à mesure que la soirée avançait. À 1h40 du matin, Cher et son compagnon quittèrent le casino. Elle allait rejoindre la liste des personnes disparues. Les jours passèrent sans aucun signe de Cher. Son père, paniqué, signala sa disparition au service de police de Lakewood. Le détective Scott Richardson fut chargé de l'enquête. Les cas de personnes disparues peuvent être délicats. Richardson ne voulait pas déployer toutes ses ressources pour rechercher une jeune femme qui ne faisait peut-être que se changer les idées.
C'était une enquête difficile. On ne veut pas trop s'investir ou faire une enquête trop complexe pour découvrir que cette personne est au soleil quelque part sur une plage de Maui.
Richardson avait cependant l'intuition que Cher n'était pas partie en vacances. Son premier objectif fut d'identifier l'homme avec lequel elle avait été vue pour la dernière fois. Une caméra de surveillance du casino avait enregistré son image.
Nous ne savions pas qui était cet homme. C'était la dernière fois que nous voyions Cher vivante. Un de ses amis l'avait vue au casino avec cet homme.
L'homme fut identifié comme étant Thomas Luther, une connaissance de Byron Powers, le petit ami de Cher. Elle avait été présentée à cet homme peu avant son triste voyage à Central City. Après avoir enquêté sur Thomas Luther, Richardson sut qu'il n'était plus à la recherche d'une personne disparue, mais bien d'un cadavre. Cher avait choisi la mauvaise personne pour se faire consoler. Thomas Luther était un violeur notoire et venait de terminer une peine de 10 ans de prison pour avoir attaqué et violé une jeune femme. Il s'était vanté en prison que lorsqu'il sortirait, la police ne découvrirait jamais sa prochaine victime. Cette fois-ci, il enterrerait le corps là où personne ne le trouverait. Richardson espérait contrecarrer ses plans.
Notre objectif était de retrouver le corps de Cher Elder, pour deux raisons, pour fin de poursuite judiciaire et aussi pour la famille.
Richardson interrogea Luther, qui déclara qu'après avoir quitté le casino, il avait déposé Cher chez son petit ami. La voiture de Luther fut saisie et fouillée, mais aucun indice ne fut découvert. Richardson travailla d'arrache-pied pendant des semaines. Même sans indice, il était convaincu que le corps de cette fille était là, quelque part, et c'est ce qui le poussait à continuer. Pour lui, la seule façon de déjouer un criminel de la trempe de Luther serait de le déstabiliser en espérant qu'il retournerait à la tombe pour s'assurer que rien n'y avait été dérangé.
J'ai appelé Luther chez lui et j'ai volontairement pris un ton assuré. Je lui ai dit que nous avions des preuves et que je voulais qu'il me rencontre à 9 heures le lendemain matin. J'espérais que ça le rendrait anxieux et qu'il commettrait une erreur.
Richardson obtint le résultat escompté puisqu'un informateur lui déclara que Luther prévoyait retourner à la tombe tôt le lendemain matin. Si le corps avait été déterré, il avait prévu prendre la fuite immédiatement. Pendant ce temps, des policiers en civil établissaient un immense réseau autour de la région métropolitaine de Denver, surveillant les connaissances de Luther et patrouillant les routes principales. Le matin du rendez-vous, les policiers aperçurent un homme dans une voiture sur le bas-côté d'une route. Bientôt, ils virent Luther sortir des bois et monter dans la voiture. Luther se rendit à la rencontre prévue avec Richardson, conscient du bluff de l'enquêteur. Sans le corps du délit, la police ne pouvait arrêter Luther. La loi l'obligerait à le laisser partir. Des mois passèrent sans aucun développement de l'affaire. Pendant ce temps, le suspect principal déménagea dans un autre état. Plus les jours passaient, plus il semblait que l'histoire de la disparition de Cher Elder allait demeurer un secret entre le tueur et sa victime. Ce qui motivait Richardson à poursuivre son enquête était sa conviction que Cher Elder était enterrée quelque part dans Empire Valley, mais la retrouver dans de tels terrains escarpés serait difficile.
Cette vallée fait environ 25 km de long. Et lorsqu'on y arrive et qu'on commence à chercher, on n'y trouve que des formations rocheuses et des amoncellements de pierres. Il y a beaucoup d'endroits où un corps pourrait être caché. C'est comme un labyrinthe.
Des semaines de vaines recherches dans Empire Valley découragèrent les détectives. Retrouver le corps de Cher Elder sur ce terrain abrupt demandait une expertise qui hypothéquerait les ressources de n'importe quel service de police. Richardson était conscient qu'il avait atteint la limite de leurs moyens, mais il n'était pas encore prêt à tout laisser tomber. L'infatigable détective eut une dernière idée. Il contacta NecroSearch, un corps d'élite formé de scientifiques qui utilisent de nombreuses disciplines pour retrouver des corps disparus.
NecroSearch a été créé parce qu'un groupe d'hommes de loi et de scientifiques se sont associés et se sont dit qu'il devait y avoir des moyens de retrouver des personnes disparues et des indices.
Dans ce but, NecroSearch a réuni des scientifiques renommés du Colorado qui combinent 15 spécialités dont la botanique, la géologie, la géophysique, l'anthropologie judiciaire et l'entomologie. L'hypothèse de base de NecroSearch repose sur le fait que les corps enterrés transforment à jamais les écosystèmes. La terre, sur une tombe, peut s'affaisser lorsqu'il pleut ou qu'il neige. Une végétation précise peut se développer sur un corps en décomposition. Des insectes et des charognards peuvent être attirés. Fin janvier 1995, Richardson reçut une information. Il se rendit avec NecroSearch à une pinède sur un escarpement rocheux à l'écart de la route. Les pierres recouvraient tout le secteur. Une tombe aurait pu être cachée n'importe où. NecroSearch effectua les analyses préliminaires du site, mais dut interrompre ses recherches à cause du mauvais temps. 2 ans s'étaient écoulés depuis la disparition de Cher. Puis, soudain, l'enquête avança. Le petit ami de Cher, Byron Powers, se retrouva en prison pour voie de fait. Il semblait que Cher manquait de jugement dans le choix de ses compagnons. Afin de diminuer les accusations portées contre lui, Powers avoua aux policiers que Luther avait tué Cher Elder. Il ajouta qu'il connaissait l'emplacement du corps.
Nous avons finalement appris que Thomas Luther avait transporté le corps de Cher Elder sur la pente d'une colline près d'un escarpement rocheux et qu'il avait monté la pente, ce qui est rare.
L'amoncellement de pierres indiqué par Powers était à seulement quelques centimètres de l'endroit où Richardson et NecroSearch travaillaient lorsque le temps froid les avait contraints à abandonner.
Nous étions à 5 cm du corps de Cher Elder quand nous avons abandonné nos recherches. Nous sommes revenus, nous avons creusé et découvert son corps.
Comme dans les fouilles archéologiques, l'équipe établit un quadrillage et commença à creuser. Les analystes ne recueillaient avec précaution que 10 cm de terre à la fois. L'archéologue Steve Island a participé à la recherche de la dépouille de Cher Elder.
Les premiers 5 à 6 cm de terre étaient gelés. Nous étions en janvier ou en février, si ma mémoire est bonne. Et nous avons dû utiliser une pioche pour enlever la couche supérieure qui était complètement gelée.
Après 4 jours et 60 cm d'excavation, l'équipe découvrit enfin les premiers ossements. À l'aide d'outils de précision, les restes du corps furent finalement extraits de la terre gelée. La comparaison des dents de la victime avec les radiographies du dossier médical de Cher Elder confirma qu'il s'agissait bien de son corps. Les résultats préliminaires de l'autopsie indiquaient que la jeune femme avait reçu 3 balles dans la tête, comme si elle avait été exécutée. Le jury fut convaincu de la culpabilité de Thomas Luther dans le cas du meurtre de Cher Elder. Il fut condamné à 48 ans de prison sans possibilité de liberté conditionnelle. Grâce aux efforts soutenus de Scott Richardson et de l'équipe scientifique de NecroSearch, l'aventure se termina enfin. Après la résolution de cette affaire, NecroSearch rendit hommage au détective Richardson en l'admettant dans ses rangs. Sans sa détermination, le corps de Cher Elder n'aurait jamais été retrouvé. La Terre est peut-être un témoin silencieux, mais la botanique et la géologie fournissent des moyens de lire ses messages. Plusieurs crimes jugés impossibles à élucider il y a quelques années seulement sont maintenant résolus grâce à quelques semences, racines ou grains de sable. La nature est devenue un terrain d'analyse et nous n'en avons qu'effleuré la surface.